On vit vraiment dans un monde fascinant quand on y pense deux secondes.
Ah, tellement!
Aujourd'hui, on peut littéralement sortir son téléphone de sa poche, appuyer sur genre deux ou trois boutons et commander un café super complexe. Tu sais, avec du lait d'avoine, un supplément d'espresso, un filet de caramel.
La totale, ouais.
Exactement, la totale. Et ensuite, le truc fou, c'est qu'on peut suivre à la seconde près le trajet du livreur sur une petite carte interactive jusqu'à notre porte.
C'est vrai que c'est rendu normal pour tout le monde.
Ouais, c'est d'une fluidité absolue. C'est immédiat, c'est presque magique. Mais, et c'est là le grand paradoxe qu'on va explorer dans notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Pendant que notre café voyage avec une précision chirurgicale, ben, il y a d'innombrables petites et moyennes entreprises, des PME, bien de chez nous, qui tentent de gérer leurs expéditions de marchandises à l'international avec des processus manuels qui, honnêtement, semblent tout droit sortis des années 90.
Ouais, c'est un contraste qui est assez saisissant, en effet. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un document assez technique, mais d'une importance vraiment capitale pour quiconque s'intéresse au fonctionnement du commerce moderne.
Un document très éclairant, oui.
Exact. Le document qu'on analyse aujourd'hui s'intitule « How to integrate technology into your shipping process ». Et l'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi l'intégration technologique, qui est souvent perçue par les entreprises comme ben, un fardeau, lourd, coûteux et complexe, pourquoi c'est présenté dans ce texte non pas comme un luxe, mais comme une nécessité absolue pour la survie?
Ouais, une question de vie ou de mort pour l'entreprise, carrément.
C'est ça. Et je précise d'emblée que notre but ici, c'est pas de faire la promotion des solutions mentionnées, mais bien d'analyser objectivement les arguments de l'auteur de notre source. Et selon le texte, le paysage logistique moderne, avec ses attentes phénoménales dictées par les géants du commerce en ligne, bien, il pardonne tout simplement plus les retards ni les erreurs.
C'est très clair. Fait que décortiquons un peu ce problème de base-là. Le document met en lumière une réalité assez... assez brutal pour ces entreprises, ces fameuses PME où les jeunes poussent. Elles se battent au quotidien contre des monstres invisibles. On parle de la saisie manuelle de données qui n'en finit plus, des coûts d'expédition qui fluctuent sans cesse, et surtout, un manque flagrant de visibilité sur ce qui se passe une fois que la marchandise quitte le quai de chargement de l'entrepôt.
C'est le trou noir.
C'est exactement ça. Un trou noir logistique. Le document explique qu'on parle littéralement de palettes entières qui disparaissent là-dedans. Et prenons un exemple concret pour illustrer ça. On a tous, à un moment donné, tapé un mauvais code postal par erreur lors d'un achat en ligne, non?
Oh oui, ça arrive à tout le monde.
Ben c'est ça. Pour un particulier, c'est agaçant. La chemise arrive, genre, trois jours en retard. Mais pour une entreprise, on peut imaginer la réaction en chaîne.
Absolument. Et la réaction en chaîne, elle est dévastatrice. C'est exactement ce que le document identifie comme un défi majeur. Mécaniquement parlant, si un employé recopie manuellement une adresse depuis un courriel vers un vieux système d'expédition...
Ce qui arrive tout le temps.
Exact. Et qu'il inverse juste deux petits chiffres du code postal, ben le camion de fret part vers le mauvais terminal régional. La marchandise est déchargée, elle est scannée, et là, bam, on réalise l'erreur.
Aïe!
Ouais, faut alors la recharger, la réacheminer, et entre-temps, ben, le client final, lui, voit aucune mise à jour de suivi, fait qu'il panique, il appelle le service à la clientèle.
Et ça, ça coûte de l'argent?
Énormément. L'entreprise écope de frais de réacheminement punitifs imposés par le transporteur, et son capital est immobilisé sur la route. Une simple faute de frappe vient de coûter des centaines, voire des milliers de dollars et a potentiellement détruit une bonne relation d'affaires.
C'est terrifiant quand on y pense. Chaque frappe sur un clavier, c'est carrément une roulette russe logistique.
C'est une bonne façon de le dire.
Et c'est là que le document introduit sa solution phare pour, disons, niveler le terrain de jeu face aux grandes corporations. Et cette solution, c'est l'API d'expédition. Plus spécifiquement, la source s'attarde beaucoup sur une solution développée par une entreprise nommée Freightcom, avec son API FreightCommerce. Le texte affirme que c'est le pan technologique qui permet de connecter les systèmes existants d'une entreprise au réseau d'expédition mondiale. Mais avant d'entrer dans les fonctionnalités magiques, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable.
Vas-y, je t'écoute.
La source mentionne spécifiquement que cette API s'est conçue pour les entreprises avec une infrastructure déjà existante. Tu sais, c'est bien beau d'ajouter de la technologie, mais pour une compagnie qui a déjà ses logiciels, son vieux système comptable, ses employés qui sont formés à une certaine routine...
C'est la porte du changement, oui.
Exact. L'idée d'intégrer un tout nouvel outil là-dedans, ça donne vraiment l'impression de vouloir ajouter un troisième étage à une maison pendant qu'on est en train d'y habiter. Est-ce que fondamentalement, ça crée pas tout simplement un chaos monstre avant de créer de l'ordre?
C'est une excellente analogie et ça soulève une question qui est cruciale sur la nature même du fonctionnement d'une API. Parce que, bon, API, ça signifie interface de programmation d'application.
Ça sonne lourd.
Très lourd et très technique. Mais le texte s'efforce vraiment de démontrer que l'APU, Freight Commerce, se distingue justement par sa nature qui est presque invisible. Pour reprendre ton image de la maison, l'API, c'est pas un nouveau plancher qu'on construit au-dessus de nos têtes avec du gros martelage.
OK. C'est quoi la base?
C'est plutôt comme une mise à jour super intelligente de la plomberie, mais à l'intérieur des murs existants. Une API, mécaniquement, c'est juste un ensemble de règles qui permet à deux logiciels distincts de se parler entre eux.
Fait que ça remplace rien en tant que tel.
Non, exactement. Ça remplace pas le système de planification des ressources, le fameux ERP, ni la boutique en ligne. Ça agit vraiment comme un traducteur universel en arrière-plan.
Oh, je vois.
Ouais. Fait que lorsqu'une commande est passée, l'API prend les données, elle les traduit dans un langage que les transporteurs mondiaux comprennent, elle obtient la réponse et elle la renvoie au système de l'entreprise. Et tout ça en quelques millisecondes.
OK, donc la maison reste intacte, on casse pas les murs, mais soudainement, ben, l'eau chaude arrive plus vite, avec plus de pression et elle coûte moins cher. J'aime bien l'idée. Et c'est là où l'analyse devient vraiment intéressante, c'est quand on regarde sous le capot de cette API spécifique.
Absolument, les fonctionnalités sont assez poussées.
Le document liste des avantages qui ressemblent presque à des super-pouvoirs, honnêtement.
Mm-hmm.
Notamment, la tarification instantanée. Et là, on parle pas juste d'envoyer une petite boîte de souliers par la poste.
Non, on parle de gros volumes.
La source insiste sur le fait que ça fonctionne pour les colis standards, oui, mais aussi pour les palettes, ce qu'on appelle l'expédition à charge partielle ou le LTL, pour Less Than Truckload, dans le jargon de l'industrie.
Tout à fait.
Le texte avance que le système fouille dans un réseau de transporteurs de confiance et qu'il sort les meilleurs taux instantanément. Mais comment c'est possible? Pour un petit colis, je comprends, c'est basé sur le poids et la dimension.
Mm-hmm.
Mais pour une palette entière, avec des transporteurs routiers, c'est infiniment plus complexe, non?
C'est extrêmement complexe et c'est effectivement là que réside le véritable tour de force technologique qui est décrit dans le document. L'expédition LTL, traditionnellement, c'est un cauchemar absolu de tarification.
J'imagine, oui.
Contrairement à une boîte standard, ben le prix d'une palette, il dépend pas seulement de son poids. Il dépend de ce qu'on appelle sa classe de frais. Et ça, c'est déterminé par sa densité, sa facilité de manipulation et sa valeur.
Donc, le contenu compte.
Énormément. Une palette remplie d'oreillers en plumes, par exemple, ça coûte pas du tout la même chose à expédier qu'une palette exactement de la même taille, mais remplie d'haltères en fonte.
Ah ben oui, logique.
De plus, il faut calculer le poids volumétrique, il faut ajouter les suppléments de carburant qui, soit dit en passant, changent chaque semaine selon le marché.
C'est un vrai casse-tête.
Et c'est pas fini. Il faut aussi ajouter les frais pour les haillons élévateurs, tu sais, la plateforme à l'arrière du camion, si le client à la réception n'a pas de quai de chargement.
Ouf! Fait que comment les entreprises faisaient avant?
Historiquement, obtenir une cotation, pour ça, ça nécessitait d'appeler 3 ou 4 transporteurs différents, de négocier au téléphone, de donner toutes ces spécifications-là et d'attendre des courriels de retour.
Une perte de temps incroyable.
Exact. Et ce que le document affirme, c'est que l'API Freight Commerce a numérisé toutes ces variables ultra complexes. Ces algorithmes calculent ces dimensions croisées en temps réel et interrogent les bases de données des transporteurs de façon instantanée.
C'est un changement de paradigme total pour une entreprise. Et si on pousse la logique un peu plus loin, le point suivant abordé dans le document est encore plus crucial, je trouve, pour l'expérience client. C'est l'intégration directe à la boutique en ligne.
Oui, ça, c'est majeur.
C'est un peu comme si on transformait la vitrine web de la PME en un courtier d'expédition invisible. Tu sais, pendant que le client final est en train d'entrer son numéro de carte de crédit à la caisse virtuelle, l'API a déjà fait les calculs mathématiques dont on vient juste de parler et elle affiche les options d'expédition avec des tarifs réduits.
Directement à l'écran, oui.
L'attention, c'est ici que je dois exprimer un certain scepticisme par rapport au texte.
Oh, sur quel aspect?
Bien, on parle de connecter un vieux système de gestion des stocks ou un site de commerce électronique à un réseau mondial en temps réel et ce, pendant une transaction financière.
Mm-hmm, je vois où tu veux en venir.
Le document insiste beaucoup sur la sécurité. Il mentionne, et je cite, « de multiples couches de cryptage de niveau entreprise ». Mais soyons réalistes, Deuscon. C'est ce que disent absolument toutes les plaquettes commerciales. Concrètement, quand on ouvre son système interne à une API tierce de même, le risque de brèche de données ou de piratage
il augmente forcément, n'est-ce pas? On ouvre une porte vers l'extérieur.
C'est une réserve qui est tout à fait légitime. Et je te dirais que c'est un point sur lequel les architectes de systèmes sont toujours, toujours nerveux.
Avec raison.
C'est le fonctionnement de la requête.
Comment ça marche en arrière-plan?
Lors d'un appel API, l'entreprise ne donne pas accès à l'entièreté de sa base de données. Elle ne donne pas accès au numéro de carte de crédit de ses clients non plus. La communication, elle se fait par le biais de ce qu'on appelle des jetons d'authentification ou des tokens.
OK, donc c'est limité.
Très limité. Le système de la PME, dans le fond, il emballe uniquement les informations qui sont strictement nécessaires pour l'expédition. Genre le code postal de destination, le poids et les dimensions. Il met ça dans une enveloppe numérique lourdement cryptée.
Juste le minimum requis.
C'est ça. L'API reçoit l'enveloppe, elle fait son travail de calcul et elle renvoie juste le prix. L'architecture même d'une API bien conçue, selon les affirmations de notre source, ça agit comme un sas de sécurité hermétique. Les données sensibles des clients ne transitent pas par les serveurs d'expédition.
D'accord. OK, je comprends la mécanique du sas de sécurité. C'est quand même rassurant de savoir qu'on n'envoie pas le profil complet du client avec chaque demande de tarif.
Exactement.
Donc, on a la sécurité, on a des tarifs complexes calculés instantanément, on a l'intégration fluide à la caisse. Mais, et c'est mon autre grande interrogation concernant les expéditions, surtout à l'international, qu'en est-il de la bureaucratie?
Ah, le gros morceau?
Mais ah, obtenir un bon prix pour envoyer une palette de Montréal à Chicago, c'est génial. Mais la paperasse douanière, c'est littéralement ce qui paralyse les opérations d'une entreprise.
Souvent, oui.
Ce n'est pas le camion qui est lent sur l'autoroute, c'est le formulaire de douane qui a été mal rempli par un employé fatigué les vendredis après-midi et qui bloque toute la marchandise à la frontière. Est-ce que le document dit que l'API règle ça aussi?
Oui, et c'est ce que j'appellerais vaincre le dragon de la paperasse. Et c'est précisément dans la section sur la gestion des réservations et des documents que le texte déploie vraiment ses arguments les plus forts concernant l'efficacité.
Ah ouais.
Selon l'auteur, l'API ne se contente pas juste de trouver un prix. Dès l'instant où l'expédition est confirmée dans le système par le client, l'API s'occupe de générer automatiquement toute la documentation requise.
Attends, quand on dit automatiquement, ça veut dire comment? Comment la machine peut savoir ce qu'il y a physiquement dans la boîte pour le déclarer aux douanes?
Bien, c'est là qu'est la beauté de l'intégration des systèmes, puisque l'API est connectée directement à la plateforme de commerce électronique ou au système d'inventaire. Elle extrait elle-même la description exacte du produit.
OK.
Elle extrait aussi sa valeur déclarée, le pays d'origine de fabrication et surtout les fameux codes du système harmonisé, les codes SH utilisés par les douaniers. Tout ça s'est tiré directement de la base de données de l'article qui vient d'être acheté.
C'est fou pareil.
L'API prend tous ces points de données-là et elle peuple instantanément les champs requis sur les connaissements qu'on appelle les BOL et sur les factures douanières commerciales. Il n'y a aucune retranscription humaine, zéro.
Donc pas de coquille?
Exact. Le risque d'inverser deux chiffres sur une valeur en douane, ce qui pourrait entraîner en 100 ans des amendes sévères ou même la saisie de la marchandise, bien, ce risque-là est virtuellement éliminé selon les promesses du document. Et tout ça s'accompagne d'un suivi de bout en bout en temps réel.
Wow! Si on élimine la retranscription manuelle des documents de douane, on vient de sauver des heures et des heures de travail par jour à des employés.
C'est majeur pour la productivité.
Mais ça m'amène à une réflexion intéressante sur la philosophie derrière tout ça. Le document présente un paradoxe assez fascinant. Généralement, quand une entreprise implémente une technologie d'automatisation aussi poussée, il y a une crainte très légitime, je trouve, de perdre le contact humain.
Tout à fait, la peur de parler à des robots.
C'est ça, hein? On a peur de se retrouver seul face à un robot conversationnel, genre un chatbot complètement inutile, si notre palette reste coincée dans une tempête de neige quelque part en l'Ohio.
Et le chatbot qui tourne en rond, « Je n'ai pas compris votre demande ».
Exactement. L'enfer. Or, le texte met en évidence une approche qui est tout à fait hybride de la part de Freightcom.
C'est une dualité que le document prend vraiment la peine de souligner, oui. D'un côté, on utilise la machine pour ce qu'elle fait de mieux, l'élimination des tâches manuelles répétitives, la puissance de calcul des tarifs algorithmiques et la génération de documents sans aucune erreur.
Ce qui est super.
Ça libère les ressources humaines de l'entreprise pour qu'elle se concentre sur des choses plus stratégiques. Mais de l'autre côté, la source insiste sur le fait que la plateforme offre un vrai filet de sécurité humain.
Un vrai humain au bout du fil?
Le texte mentionne un support technique sur appel assuré par des experts en expédition qui sont hautement qualifiés. L'idée qui est avancée ici, c'est que si une exception logistique grave survient, ben c'est pas une intelligence artificielle qui va devoir négocier avec un agent des douanes zélé ou avec le répartiteur d'un gros transporteur.
Ouf,
heureusement.
C'est un humain qui comprend les vraies nuances de la logistique qui prend le relais.
En gros, l'ordinateur s'occupe de la paperasse et des calculs arides, et l'humain, lui, s'occupe de la résolution des problèmes complexes et offre un service empathique.
C'est le meilleur des deux mondes.
Et cette combinaison-là, elle est présentée comme la clé d'un autre concept majeur du document, la scalabilité. C'est-à-dire la capacité d'adaptation à la croissance.
Mm-hmm.
T'sais, une infrastructure où un employé remplit des connaissances à la main à longueur de journée, ça fonctionne peut-être pour genre 10 expéditions par jour. Mais si une entreprise fait soudainement une promotion virale sur les réseaux sociaux et que passe à 500 expéditions en un seul week-end...
L'employé va faire un burn-out.
L'infrastructure humaine s'effondre complètement. Le document prétend que l'API est conçue pour gérer ces augmentations massives de volume de manière robuste. C'est la promesse d'une plomberie qui peut gérer un petit robinet qui goûte tout comme une lance à incendie sans que les tuyaux n'éclatent.
C'est vraiment l'argument central de l'intégration technologique. Mais bien sûr, tout ça, c'est la théorie. C'est l'état final désiré, le rêve de l'entrepreneur.
Ouais.
Mais le document ne s'arrête pas là. Il propose aussi une vraie feuille de route pour l'implémentation. Et pour bien comprendre comment on passe de la théorie à la pratique concrète, je pense qu'il faut un peu sortir de la liste à puces du document et l'appliquer à une situation réelle.
Oui, s'il te plaît. Parce que lire un manuel d'instruction étape par étape, c'est un peu sec. Prenons plutôt un exemple fictif, mais super réaliste.
Excellente idée.
Imaginons une entreprise canadienne, disons un fabricant de meubles basé à Montréal. On va l'appeler l'atelier Boisfranc.
D'accord.
Il fabrique de lourdes tables à manger en bois massif. Ça doit être expédié sur des palettes via le fameux service LTL dont on a parlé. Mais à côté de ça, ils vendent aussi des petites planches à découper et des produits d'entretien pour le bois qu'ils envoient par de simples petits colis postaux.
Donc, une logistique mixte.
Exact. Comment ça se passe concrètement l'intégration de cette API pour eux si on suit les recommandations de notre source?
C'est un très bon exemple parce que ça illustre la nécessité de gérer différents types de fret. La première phase, que le document appelle l'évaluation, c'est le moment où l'atelier Boisfranc doit faire un audit interne.
Avant même de toucher au code?
Absolument. Avant même de parler aux développeurs de Freightcom pour obtenir l'accès à l'API, les dirigeants de l'atelier, ils doivent cartographier leur propre processus. Ils doivent réaliser, par exemple, que leur plus grand point de friction, c'est tout le temps perdu à appeler les transporteurs pour les tables lourdes vers les États-Unis et les erreurs de douane qui reviennent tout le temps pour le bois traité.
OK, identifier où ça fait mal.
La deuxième étape.
Et c'est là qu'on arrive au vrai nœud du problème, non? Le document parle de l'intégration. C'est le moment où l'équipe de développement doit faire collaborer l'API avec les systèmes déjà en place.
Mm-hmm. Le branchement.
Mais dans la vraie vie, là, l'atelier Boisfranc utilise probablement un vieux système ERP qui date de genre 2015 et une plateforme Shopify standard pour les ventes web. Le document parle de relier tout ça, mais est-ce qu'il aborde les cauchemars de compatibilité? Parce qu'on le sait très bien, c'est jamais aussi simple qu'un branchement universel où tout s'allume du premier coup.
Le texte est très conscient de cette friction-là, et c'est d'ailleurs pourquoi il insiste lourdement sur la phase suivante, qui est vitale, les tests rigoureux. Le document promet pas une espèce de magie instantanée sans aucun effort de développement.
Ah, ça c'est honnête.
Oui, les programmeurs de l'atelier Boisfranc vont devoir utiliser l'environnement de test de l'API. C'est ce qu'on appelle un bac à sable ou un sandbox en anglais.
Pour faire des fausses commandes.
Exactement. Ils vont simuler, disons, l'achat d'une lourde table à manger pour un client au Texas. Et là, ils doivent vérifier que l'API identifie bien qu'il s'agit d'un envoi LTL et pas d'un colis, qu'elle applique la bonne classe de fret pour du meuble en bois assemblé.
Quel prix est bon?
Quel tarif affiché à la caisse couvre réellement les frais du transporteur, oui. Et surtout que la facture douanière américaine, elle se génère toute seule avec les bons codes de libre-échange. Parce que si le tarif affiché à la caisse est trop bas, à cause d'un petit bug de mappage des données, ben l'atelier Boisfranc va perdre de l'argent sur chaque vente.
C'est critique, ouais.
Fait que cette phase de test en circuit fermé, elle est primordiale pour éviter le désastre avant le lancement au grand public.
C'est là qu'on voit que l'informatique, bien, ça demande une rigueur absolue. Mais je veux m'attarder un peu sur l'aspect humain de cette transformation-là. C'est souvent négligé dans les textes purement techniques. Le document mentionne spécifiquement la phase 5, la formation du personnel.
Très important.
Et ça me fait penser à une analogie. C'est comme si l'atelier Boisfranc venait de s'acheter une voiture de course à la fine pointe de la technologie pour sa logistique. Le moteur, l'API, est incroyable.
Mais si le responsable de l'entrepôt, le gars sur le plancher, sait pas comment lire les notifications générées par le système, ou s'il sait pas comment utiliser le nouveau tableau de bord pour imprimer les étiquettes en lot, l'entreprise ira nulle part.
C'est clair.
Elle va même probablement foncer droit dans le mur. La technologie, aussi brillante soit-elle sur le papier, elle a d'impact que si l'humain la dote et la maîtrise au quotidien.
C'est un point de vue que l'auteur du document semble vraiment partager. Hein? Une implémentation technologique, ça échoue très souvent à cause d'une mauvaise gestion du changement au sein des équipes.
La formation, dans le fond, ça vise à s'assurer que le personnel ne perçoit pas le nouvel outil comme une menace pour leur emploi ou comme une boîte noire incompréhensible.
Mais plutôt comme un outil pour les aider.
Exactement, comme un levier pour rendre leur travail quotidien beaucoup moins frustrant et répétitif. Et l'histoire ne s'arrête pas là avec la formation.
Il reste une étape, Sam.
L'étape 6.
Une fois l'API lancée et le personnel formé, l'entreprise entre dans une phase de surveillance et d'optimisation continue. Parce que le marché de l'expédition, c'est super dynamique.
Les prix changent, les stratégies aussi.
Voilà. L'atelier Boisfranc pourrait décider demain matin de changer sa politique de livraison gratuite ou de commencer à offrir de nouveaux services très accélérés. Et l'intégration de l'API permet justement d'ajuster ces paramètres-là dans le code de façon super agile.
Plutôt que de tout refaire à la main.
C'est ça. Plutôt que de devoir renégocier manuellement des centaines de contrats avec des transporteurs à chaque petit changement de stratégie.
Donc, si on synthétise un peu les arguments principaux de notre document source d'aujourd'hui, le message que l'auteur tente de faire passer est assez catégorique.
Mm-hmm.
Conserver des processus logistiques manuels et fragmentés pour des expéditions de fret ou des colis commerciaux en 2026, ce n'est tout simplement plus viable. Et selon le texte, la solution d'intégration de Freightcom prétend transformer cette vulnérabilité-là en un avantage concurrentiel majeur.
C'est vraiment la thèse centrale.
Avec les pré-réglages de remplissage automatique pour les douanes, les capacités d'expédition en vrac, puis l'accès instantané à des taux préférentiels pour des charges super complexes comme les LTL, la promesse est de pouvoir absorber des volumes de ventes considérables sans multiplier les heures de travail administratif et sans risquer les crises cardiaques logistiques à chaque erreur de frappe.
En résumé, oui, le document soutient que l'objectif ultime de cette technologie, c'est d'éliminer la friction entre le moment où la carte de crédit est débitée en ligne par le client et le moment où la marchandise arrive à destination de manière sécuritaire. Et tout ça, bien sûr, en préservant les marges de profit de la PME grâce à des choix d'algorithmes intelligents.
Et ça nous amène à une réflexion finale vraiment fascinante, je trouve. On a commencé notre analyse aujourd'hui en opposant la technologie de pointe de la commande d'un café via une application mobile à l'archaïsme des palettes de bois qui sont bloquées aux douanes à cause de formulaires froissés.
La fameuse erreur humaine!
Ouais. Mais quand on réalise, à travers l'analyse de ce texte, que quelques requêtes de données qui sont bien structurées via une API intelligente peuvent rendre un processus aussi incroyablement lourd, physique, complexe et international que le déplacement de tonnes de fret, que ça peut rendre ça presque invisible et sans friction.
Ça donne le vertige un peu.
Ça pousse vraiment à la curiosité, oui. On en vient à se demander quels autres problèmes massifs et concrets de notre monde physique. Des problèmes qui nous semblent aujourd'hui insurmontables, coûteux ou terriblement fastidieux, attendent tout simplement l'arrivée de la bonne architecture technologique pour être complètement dissous.
C'est une excellente question. Et c'est précisément l'impact silencieux, mais tellement profond, de l'évolution des infrastructures numériques. Au bout du compte, elles finissent par rendre l'extraordinaire complètement banal.
Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Un grand merci d'avoir exploré les rouages de cette technologie-là avec nous aujourd'hui. C'est toujours enrichissant de comprendre les mécanismes invisibles qui font tourner l'économie mondiale.
Merci à tous!
Pour ceux qui voudraient plonger plus profondément dans les détails techniques ou examiner les spécifications exactes de l'API mentionnée, la source complète contient absolument toutes les informations nécessaires. C'est une réflexion qui invite assurément à garder l'esprit ouvert sur la manière dont les intégrations numériques vont continuer de transformer les opérations du monde physique. À la prochaine pour une nouvelle plongée analytique!